Chapitre 1. Quelles sont les sources de la croissance économique? Grand 1. Intérêts et limites du PIB. Le produit intérieur brut, PIB, est un indicateur très utilisé pour mesurer l'activité économique d'une nation. En effet, cet agrégat, qui équivaut à la somme des valeurs ajoutées brutes réalisées par les agents résidents, donne une mesure de la valeur de la production réalisée sur un territoire. Le PIB par habitant, à condition de raisonner en parité de pouvoir d'achat et en volume, est un instrument de référence pour comparer les performances économiques entre pays ou pour souligner les évolutions de ces performances dans le temps, mesure de la croissance économique. Toutefois, cet indicateur a des limites. Ainsi, il ne mesure ni les richesses créées par les activités domestiques, ni celles réalisées de manière bénévole. Concernant les activités souterraines, elles ont été pendant longtemps non comptabilisées dans le PIB, mais devront dorénavant, au sein de l'Union européenne, être intégrées dans son calcul. La valeur des productions non marchandes est également difficile à établir précisément. Par ailleurs, le PIB, ou PIB par habitant, est un indicateur approximatif du niveau de vie des populations. Ainsi, il est souhaitable de pondérer le PIB par d'autres composantes potentielles du bien-être national, telles que l'état de santé, le niveau de sécurité ou le degré d'inégalité. C'est à ce titre que l'indice de développement humain, IDH, a été développé depuis 1990 par le PNUD. Il s'agit d'un indice composite qui intègre trois dimensions dans son calcul, la santé et la longévité, le niveau d'éducation et le niveau de vie. Grand 2. Une croissance inégale dans le temps et dans l'espace. La croissance a été inégale dans le temps. À l'échelle de l'humanité, le PIB par habitant est resté quasiment stable jusqu'au XVIIe siècle. Cela signifie que la croissance de la production était peu ou prou égale à celle de la population. Ensuite, la croissance du PIB par habitant a été spectaculaire. Il a été multiplié par 5 entre le milieu du XVIIIe et le milieu du XXe siècle et par 6,5 depuis. La croissance a été aussi inégale dans l'espace. Toutes les zones du monde n'en ont pas également profité. Ce sont l'Europe et l'Amérique du Nord, suivies plus tard par le Japon, qui ont connu la croissance la plus forte au XIXe et XXe siècle, avant que les pays émergents ne connaissent à leur tour une croissance élevée. Grand 3. Aux origines de la croissance, les facteurs de production. Pour produire, une unité productive a besoin de facteurs de production, c'est-à-dire de travail et de capital. Et plus elle en utilise, plus elle est en capacité de produire une grande quantité de biens et ou de services. On observe une corrélation positive entre l'évolution du PIB et celle de l'emploi. Quand l'emploi augmente, la croissance est élevée et vice-versa. Il en est de même pour l'investissement. Plus la quantité de capital utilisée est importante, plus la croissance sera forte. Cette corrélation est remise en question par la loi des rendements décroissants, émise par les économistes classiques. Celle-ci énonce que l'augmentation de la quantité de facteurs de production utilisés mène à une moindre efficacité de chacun des nouveaux facteurs mis en place, et qu'à terme, leur productivité additionnelle tendra vers zéro. Ainsi, la croissance économique ne peut être infinie, et l'investissement à terme ne sera plus facteur de croissance. L'activité productive peut être formalisée par une fonction de production qui relie le niveau de production réalisé à la quantité de facteurs de production utilisés en fonction de l'état des technologies disponibles. De manière générale, on écrit la fonction de production sous la forme suivante. Q égale F de KL, Q désignant les quantités produites, K et L les quantités de capital et de travail utilisées. À partir d'une telle fonction de production, il est possible de distinguer plusieurs types de croissance. La croissance extensive, qui provient principalement de l'accroissement des quantités de facteurs de production utilisés, est la croissance intensive qui provient principalement de l'accroissement de l'efficacité des facteurs utilisés. Dans ce dernier cas, le résidu, la hausse de la quantité produite qui n'est pas explicable par l'accroissement des quantités de facteurs capital ou travail, permettra de mesurer la contribution de la productivité globale des facteurs de production à la croissance. Grand 4. Le progrès technique au cœur de la croissance. La seule manière de dépasser la limite induite par la loi des rendements décroissants est de montrer que la fonction de production peut évoluer sous l'influence de l'introduction d'un progrès technique qui permet, pour un même niveau de facteurs de production utilisés, de générer un niveau de production plus élevé. Ce progrès technique a longtemps été considéré comme exogène par les économistes, c'est-à-dire extérieur au modèle utilisé. Les modèles dits de croissance endogène ont cherché à montrer que le progrès technique pouvait découler de l'activité économique elle-même et ont mis en avant les bienfaits de l'investissement dans des activités à externalité positive et à rendement d'échelle croissant. Dans ce cadre, il n'y a plus de limite théorique à la croissance économique. Grand 5. Le rôle des institutions et des droits de propriété dans la croissance. Les institutions, lois et règlements, sont essentielles au bon fonctionnement des marchés. Elles sont constituées de l'ensemble des règles qui régissent les interactions humaines, notamment les droits de propriété. Le brevet est un exemple de droit de propriété qui vise à protéger une innovation, c'est-à-dire un produit ou un procédé qui apporte une solution à un problème technique donné. L'entrepreneur qui dépose un brevet est le seul à pouvoir l'utiliser, ce qui l'incite à investir dans la recherche. Dès lors, comme l'innovation est une source de la croissance économique, tout cadre réglementaire qui assure le respect des droits de propriété peut favoriser la croissance.